Zen à l'antenne. Zen à l'antenne. Le magazine de la santé et du bien-être. Une émission proposée par Karine Broek. Le magazine de la santé et du bien-être. Zen à l'antenne.
Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver pour notre rendez-vous mensuel bien-être. Bientôt, nous aurons tous besoin de retrouver la fraîcheur et justement, aujourd'hui, nous quittons les studios pour aller à la rencontre de Cindy Pavy, sylvothérapeute. Nous la retrouvons à Arras, sous les arbres, dans le bois de la citadelle. Bonjour Cindy.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, nous sommes venus vous voir pour aborder un sujet qui est la sylvothérapie. Mais avant toute chose, j'aimerais vous connaître, savoir un petit peu qui vous êtes.
Donc je suis Cindy Pavy et je suis... Alors j'ai toujours un peu entre les termes pour me définir, c'est assez compliqué. J'aime le terme accompagnement au mieux-être et concernant la sylvothérapie, guide en sylvothérapie.
Vous pouvez nous en dire un petit peu plus parce que pour nous, le terme sylvothérapie, c'est quoi exactement ?
Alors, généralement, peu de personnes connaissent la sylvothérapie. Ce qui parle plus, c'est les câlins aux arbres. C'est le cliché qui est véhiculé sur les médias. Mais c'est absolument pas que faire des câlins aux arbres. Les câlins aux arbres ne sont pas obligatoires. C'est un temps de pause. Dans la nature, on s'arrête, on ralentit, on fait le calme en soi, on se détend et on utilise les sens pour se reconnecter à soi et à la nature, à tout l'espace boisé. Donc la sylvothérapie, ça concerne les espaces boisés, forestiers. Voilà, mais ce n'est pas que l'arbre, c'est tout l'environnement, tout ce qu'il y a autour.
Ça s'adresse à qui ?
À tout le monde. Dès l'instant où on peut tenir debout, parce que ça se fait là. C'est une activité, les séances durent 2 heures, enfin en tout cas mes séances durent 2 heures. Dès l'instant où on peut marcher dans un sous-bois et rester debout, en position debout, il n'y a aucun problème.
Donc il n'y a pas d'âge, les petits peuvent venir aussi avec leurs parents. 2 heures, ça fait peut-être beaucoup.
J'anime des ateliers parents-enfants qui durent 1h30. Au début je faisais 1 heure mais finalement on dépassait toujours l'heure, donc c'est vrai que 2 heures c'est beaucoup. Généralement les enfants entre 4 et 8-9 ans. Au-delà, mes ateliers sont ouverts aux 4-12 ans, mais au-delà je crois que les écrans remportent plutôt qu'une sortie dans la nature.
Comment vos ateliers sont perçus, que ce soit pour les petits et les grands? Le retour, c'est quoi leur retour en fait?
Alors les ateliers, j'ai commencé par les ateliers parents-enfants parce que la dynamique est un peu différente. Les séances parents-enfants, donc ça se fait en binôme. Voilà. C'est vraiment un moment de joie, de complicité, de détente avec son enfant dans la nature. Ce qui revient tout le temps, dans tous les cas, même si parfois c'est un peu plus... Enfin, je ne vais pas dire compliqué, mais voilà, en fonction des enfants, s'ils ont envie ou pas de participer. Mais après, pour moi, le principal, c'est qu'ils soient dans la nature et s'ils font pas l'activité, c'est pas très grave. Mais la détente revient tout le temps, le moment où on s'apaise, on se calme, l'enfant aussi. La détente. Et pour les adultes, c'est pareil. C'est vraiment le lâcher prise, oublier le quotidien. Généralement, les personnes n'ont pas envie de, si elles ont des rendez-vous après ou des choses à faire, n'ont pas forcément envie d'y retourner. Donc, je conseille aussi maintenant d'essayer de pas prévoir. Beaucoup de choses après ça, de pouvoir prévoir un temps de calme, parce que on lâche l'esprit, le corps s'apaise. Et comme on ralentit, on n'a pas forcément envie de reprendre son rythme habituel.
Quels sens sont mis en éveil ?
Alors, tous, sauf le goût, j'ai envie de dire. Le goût, c'est un peu plus délicat, parce que je connais un peu les plantes, mais j'évite de faire le goût. Le toucher. Alors le toucher, toucher tout ce qui est les textures, comment dire, si c'est froid, si c'est chaud, si c'est humide, l'ouïe, forcément. Ressentir aussi les sensations au niveau du corps. Et après la vue. La vue et après aussi, enfin, je pense que tous les sens se mettent en éveil si on se pose au pied, enfin voilà, tout simplement s'asseoir au pied d'un arbre, oublier les pensées. Ça peut demander du temps, mais c'est possible. Et les sens se mettent en éveil un par un quand on porte son attention sur tout ce qu'on a autour de soi.
Le côté tactile semble pour moi évident. Est-ce que vous faites découvrir les différentes textures des écorces des arbres? Est-ce que c'est aussi ça, la sylvothérapie? C'est transmettre... Enfin, apprendre à accueillir les énergies de ces arbres.
Alors oui et non, j'ai envie de dire. La sylvothérapie, en tout cas moi, la façon dont je la pratique, c'est assez terre à terre. C'est plus lié pour moi à la pleine conscience. C'est vraiment s'arrêter, ralentir et utiliser ses sens pour revenir à soi et donc à la nature. La nature, un peu le support, si j'ose dire, entre guillemets. Après, c'est sûr et certain qu'on bénéficie de l'énergie des arbres. Moi, c'est un domaine que je ne maîtrise pas, donc je ne m'aventure pas dedans. Mais pour avoir vécu des choses à titre personnel, j'ai aucun doute là-dessus. On peut se poser au pied d'un arbre ou même passer à côté et recevoir son énergie.
En fait, là, actuellement, on se trouve dans le parc de la Citadelle, là où il y a le bois. Est-ce que c'est le lieu approprié ou est-ce que vous allez dans d'autres lieux, justement, dans vos ateliers?
Je vais un peu partout. Et les zones boisées sont bien sûr plus appropriées parce qu'on peut se couper plus, sortir des chemins, aller dans les sous-bois et être plus isolé et plus connecté à la nature. Par contre, je pratique aussi dans certains parcs en ville. Dès l'instant où c'est un parc assez calme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas trop de véhicules, de trafic autour, et qu'il y a des arbres, c'est possible aussi.
Donc c'est essentiellement dans les parcs de Hauts-de-France, ou est-ce que vous êtes, vous pouvez vous déplacer, est-ce que les ateliers peuvent être dans d'autres départements?
Moi je suis basée sur Arras, donc je fais aux alentours d'Arras pour le moment. Pourquoi pas un jour dans les Hauts-de-France, s'il y a besoin, et encore ailleurs, ça pourrait être chouette, mais bon. Pour l'instant, ma zone d'activité, c'est par ici.
Là, en fait, on est près de la Citadelle. D'ailleurs, on entend un petit peu les oiseaux. On a beaucoup de chance parce qu'il fait très, très beau. Donc, c'est très agréable de se couper du monde urbain. Et franchement, c'est bien appréciable. Vous pouvez nous dire un petit peu s'il y a une formation de sylvothérapeute?
Il n'y a pas de formation reconnue à ce jour. La sylvothérapie, je pense, souffre de préjugés, en France en tout cas. Moi, je me suis formée avec une personne qui pratique la sylvothérapie depuis plusieurs années, qui m'a formée, je vais expliquer la base, les ateliers, les séances. Après, j'y mets beaucoup, soit que je parlais, je pense qu'il y a plein de façons de pratiquer la sylvothérapie différentes. Chaque praticien y met ses techniques, ce qui résonne. Enfin, moi, en tout cas, je mets ce qui résonne en moi. Donc, la sylvothérapie dans le milieu boisé. Après, je suis je suis formée en méditation de pleine conscience également. Donc, j'utilise aussi... En fait, c'est un mélange de tout. Je veux dire un peu tous mes savoirs, mais informels. Parce que je n'ai pas forcément été formée... Enfin, la méditation, oui, mais je n'ai pas forcément été formée pour tout. Tout ce qui m'intéresse, en tout cas, j'y mets un peu toutes les techniques que je connais ou que j'ai pratiquées moi-même lors de différents ateliers à titre personnel. Je réunis un peu tout ça, en fait. J'étais assistante sociale. Donc, je me suis reconvertie. J'ai quitté mon travail il y a 2 ans suite à un burn-out. Et j'en suis arrivée à proposer la sylvothérapie parce que je me suis... En fait, à ce moment-là, avant du coup de quitter le travail, j'ai commencé à pratiquer la relaxation, la méditation. Comme j'étais en arrêt maladie et que j'habite à côté donc, de la Citadelle, je passais beaucoup de temps dans la nature. Enfin, je suis retournée dans la nature parce que pareil, je n'allais plus du tout dans la nature. Clairement, je n'avais pas le temps. Voilà, je ne prenais pas le temps. Donc, je me suis mise à faire de la relaxation, de la méditation dans la nature. À contempler, à observer. Et un jour, j'ai entendu parler de sylvothérapie et je me suis dit, tiens, en fait, c'est un peu ce que je fais à ma façon. C'est pour ça que je parlais vraiment que c'est ma pratique. Moi, j'y associe vraiment ce qui me plaît. Et je me suis renseignée et donc je me suis formée pour proposer ce moyen de ressourcement. J'avais une vie aussi j'étais très investie, j'ai fait beaucoup de bénévolat. Donc entre la vie professionnelle, familiale et le bénévolat, clairement je passais mon temps à courir à droite à gauche. J'ai adoré ce que j'ai fait, j'ai aucun regret, ça m'a apporté plein de choses que je pratique d'ailleurs. Par exemple, je me suis formée au compte également, j'ai fait du bénévolat dans une médiathèque et lors de certaines séances je fais des comptes. Donc voilà, ça me sert aujourd'hui, mais ça m'a amené effectivement au bout du mur. Mais en tout cas, j'ai aucun regret. Voilà, et je pense que parfois, dans la vie, j'ai exploré le social. Est-ce que j'y retournerai un jour ou pas, je ne sais pas. Là, j'ai eu besoin d'autre chose parce que c'était plus possible pour moi. Et j'avais besoin de me recentrer, me retrouver en fait aussi, clairement. Donc la sylvothérapie m'a aidé moi. C'est pour ça que je souhaite le proposer, que je le propose aux personnes. Et la méditation également, parce que ça m'a beaucoup parlé, ça m'a beaucoup aidé.
Est-ce que il peut y avoir une prise en charge au niveau mutuel, sécurité sociale, je pense que ça doit être un petit peu plus compliqué. Est-ce que ça rentre dans la relaxation
Pas du tout. À ce jour, non, au niveau des mutuelles, la sécurité sociale, il n'y a rien du tout.
Parce qu'il y a quand même des bienfaits aussi bien sur le corps comme pour l'esprit, en règle générale. Et c'est vrai que ça peut être une thérapie. Être en méditation, effectivement, dans la nature, ça peut se recentrer, on peut s'apaiser. Je pense aussi aux personnes qui sont dépressives et qui ont besoin aussi de se reconnecter et de se remettre un petit peu en mode off pour vraiment... c'est une forme de guérison, quelque part, d'être proche de la nature. Vous en pensez quoi ?
Je suis parfaitement d'accord avec vous. Malheureusement, à ce jour, c'est pas reconnu en France. J'ai entendu parler, alors je ne sais pas si ça s'est fait ou pas, qu'en Allemagne, il pourrait y avoir des possibilités de prise en charge. La sylvothérapie, j'en ai pas parlé au début. C'est pas vraiment né au Japon, mais en tout cas, c'est ce pays-là qui s'y intéressait le mieux. Dans les années 80, où ils ont fait beaucoup d'études scientifiques pour prouver justement tous les bienfaits avérés sur le corps et l'esprit. Et ils ont mis, alors je ne sais plus, mais je crois qu'il y a une cinquantaine de parcours en sylvothérapie dans plein de... C'est un pays assez boisé, très boisé, donc il y a une cinquantaine de parcours où les personnes vont et ils ont un suivi médical. C'est-à-dire qu'avant, pendant et après, en fait, les balades, qui peuvent durer une journée, voire plus, ils sont suivis donc avec des prises de sang, des prises des taux de la pression artérielle, etc., pour démontrer que ça fonctionne, quoi, effectivement. Mais en France, ce n'est pas encore le cas.
Donc, si j'ai bien compris, la sylvothérapie est née en Asie, c'est ça ?
Alors, j'ai envie de dire oui et non, parce que c'est eux qui s'y sont intéressés le plus pour tout ce qui est les études. Mais après, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'étais en vacances dans une zone, il y avait beaucoup de cures thermales, et en lisant les panneaux, c'était marqué que déjà dans les années 1930, il me semble de mémoire, je ne suis plus sûre, mais lorsque les personnes venaient en cure, on les envoyait déjà se promener dans la forêt parce qu'ils avaient remarqué que les personnes s'apaisaient, ça faisait partie du tout en fait.
Donc, effectivement, il y a une reconnaissance des bienfaits.
Oui. Donc ce pays-là s'est plus intéressé à prouver vraiment les bienfaits. Après, je pense que peut-être sans en avoir conscience, après c'est pareil, l'homme a grandi, l'homme avec un grand H, est né dans la... dans la nature.
Donc, c'est un retour aux sources, en fait.
Bah oui, c'est ça. Ouais.
Et c'est vraiment, moi je pense, c'est vraiment un retour aux sources, une reconnexion totale avec cette nature qui est hyper importante, quoi, en fait.
Ouais. J'ai presque envie de dire, vous avez tout dit. Voilà. J'ai envie d'ajouter aussi que l'homme vivait au rythme de la nature. Chose qu'on ne fait plus maintenant parce qu'on a toutes nos obligations personnelles, familiales, professionnelles. Et peut-être encore d'autres. Donc on a tendance, je vais généraliser, mais je pense que je suis un peu dans le vrai, à courir tout le temps, à ne pas avoir le temps, ou à ne pas prendre le temps aussi. J'ai beaucoup de personnes, c'est vrai, qui se disent « je viens à votre séance », même si ça peut paraître simple, c'est une séance dans la nature, mais c'est 2 heures que je me suis bloquée dans mon agenda. À la fin de séance, je donne souvent des astuces pour refaire soi-même. On peut même refaire soi-même en voyant le contenu d'une séance. Et parfois, les personnes reviennent en disant « j'arrive pas à trouver le temps dans mon agenda, trop rempli. Donc je reviens, je me suis rebloquée un temps et je reviens profiter calmement. » Et puis le fait que ce soit bloqué, je pense, le fait de payer, ça revient moins souvent, mais le fait que ce soit bloqué vraiment, voilà, dans l'agenda, ce dimanche, 10h midi, c'est pour moi, et voilà, j'y vais.
Je vous propose une petite pause musicale avec ce titre que Cindy a choisi, de Sylvain Areg, Besoin d'air.
On tente, on se plante, on se plante, on retente, on se replante.
Je n'ai pas toujours fait les bons choix. Devant mes peurs, parfois je fuis. Comme toi, j'ai fait des erreurs. Mais sans ça, je ne serais pas là où j'en suis. Et même si l'on est sincère, on ne fait pas toujours ce que l'on dit. En tout cas, je ferai tout pour transformer l'enfer en paradis. Alors comment ne pas y croire ? Il suffit parfois de rien pour changer de route, de chemin ou de trajectoire. À la fin de l'histoire, c'est loin de moi les regrets. Pourquoi regarder derrière? Je n'ai pas de plan A, de plan B, ni de plan de carrière. Oh, je le sais, demain sera meilleur qu'hier. À la fin, la vie exaucera mes prières. Parfois j'ai tout, comme toi j'ai besoin d'air. Reprendre mon souffle pour aller de l'avant, mais ne pas revenir en arrière. Chasser les doutes, il n'y a que toi qui peux le faire. Garder confiance, ne pas s'en faire, car demain sera meilleur qu'hier. Alors comment ne pas y croire? Il suffit parfois de rien pour changer de route, de chemin ou de trajectoire. À la fin de l'histoire, c'est loin de moi les regrets. Pourquoi regarder derrière? Je n'ai pas de plan A, de plan B, ni de plan de carrière. Oh, je le sais, demain sera meilleur qu'hier. À la fin, la vie exaucera mes prières.
On se plante, on retente, on se replante. On se plante, on invente, on réinvente.
Laissez loin de moi les regrets, pourquoi regarder derrière? Je n'ai pas de plan A, de plan B, ni de plan de carrière. Oh, je le sais, demain sera meilleur qu'hier. À la fin, la vie exaucera mes prières.
Alors
Zen à l'antenne, l'émission qui prend soin de nous. Nous sommes actuellement avec Cindy Pavy dans le bois de la citadelle d'Arras. En quoi c'est différent que d'être accompagnée avec vous dans une forêt, pouvez-nous dire ?
Le terme d'être guidé, justement, c'est pour ça que moi je préfère le terme guide en sylvothérapie. Parce que tout le monde peut aller effectivement dans une clairière, dans un parc, au bord de l'eau, s'asseoir. Mais ce n'est pas donné à tous d'apprendre à se relâcher, à se détendre, mettre son esprit en pause. Et je pense que le fait d'avoir quelqu'un qui guide, qui propose les activités, c'est plus simple, tout simplement.
Est-ce que le fait de se parler, ça ne trouble pas la magie de l'endroit ?
Il y a peu de dialogue. il y a des moments de partage. En fait, une séance, c'est un temps, alors c'est un peu de marche, mais on marche très très peu, ça peut être 1 ou 2 kilomètres, enfin, vraiment en fonction des lieux. Donc c'est de la marche lente, en conscience, c'est-à-dire qu'on se centre sur soi, sur son environnement, sur ses pas. L'idée, c'est de lâcher prise, un temps de pause, un temps de relaxation. On dit d'ailleurs parfois, ça me fait penser à la sophrologie, au yoga ou d'autres techniques diverses. Et puis après, c'est les activités sensorielles. Donc ils se font généralement en individuel, et après chaque activité proposée, il y a un temps de partage pour ceux et celles qui souhaitent partager. Généralement les gens partagent, il y a parfois des personnes qui versent quelques larmes aussi, parce que elles sont dans le lâcher prise, les pensées, ce qui peut protéger, c'est mis en pause. Donc bah voilà, si ça doit sortir, ça sort. Mais c'est pas un temps de confidence, voilà, de thérapie de groupe, hein, j'ai envie de dire. Mais il y a quand même des temps de partage. Mais l'idée, comme c'est d'être en soi, si on parle tout le temps, on n'est pas en soi, on n'a pas l'esprit apaisé. Si on se calme, on ralentit, on est en silence, on s'apaise. Ça peut prendre plus de temps en fonction du caractère des uns et des autres, mais ça fonctionne tout le temps.
Si l'apaisement est là et qu'on fait la sieste, c'est une réussite ou c'est un échec ?
Ouais, moi, j'ai envie de dire que c'est une réussite. Alors, on ne fait pas de sieste pendant les séances parce que c'est arrivé parfois, il y a des temps de pause. Voilà. Les personnes, ça arrive, ce n'est pas vraiment une sieste, mais je pense qu'elles peuvent peut-être s'endormir un peu. Ou somnoler plutôt. Par contre, ça m'est déjà arrivé qu'on m'envoie des messages quand je fais les séances le dimanche matin, ou j'en fais parfois en soirée, des personnes qui ont dormi super bien, qui se sont couchées tôt, qui ont fait une nuit comme un bébé, ou l'après-midi, qui ont fait une sieste. Et c'est pareil, qui ont dormi, qui se sont ressourcées grâce à cette sieste, voilà, vraiment bienfaisante.
En venant ici, vous disiez qu'il ne suffit pas d'être un expert... au niveau des arbres, des essences des arbres, reconnaître les feuilles et reconnaître les différentes variétés d'arbres. C'est vraiment pas ça qui compte.
Pour moi, c'est pas ça qui compte. Pour mon approche, à moi en tout cas, parce que le milieu forestier en soi détend, peu importe le type de forêt, comme ici, il y a toute une variété d'arbres, peu importe, l'effet est là. Si on sait lâcher prise, l'effet sera là. Après, il y a des arbres comme les conifères qui apportent plus de bénéfices au niveau, c'est connu, les pins, etc., pour les voies respiratoires. Donc si on va dans ces forêts au moment où il y a les essences volatiles qui sont là, on les respire et on en bénéficie en plus. Mais voilà, pour moi, c'est pas le but premier en tout cas. Je fais pas des sorties, j'ai envie de dire, un peu plus thérapeutiques où je propose d'aller dans tel type de forêt pour avoir tel type de bénéfices.
C'est saisonnier comme activité ?
Oui, alors oui et non. Dans la réalité, oui, parce que souvent l'hiver, on n'a pas envie de sortir. Il fait plus froid, il pleut, enfin, voilà, tout le monde connaît la météo du Pas-de-Calais. Mais on peut sortir toute l'année. Pour moi, dès l'instant où on est bien couvert, bien habillé, des vêtements chauds, imperméables, les chaussures également, on peut sortir même en plein hiver. L'hiver, je propose... Alors cet hiver, j'en ai moins fait. Le premier hiver, quand j'ai commencé, je proposais des sorties plus courtes, d'une heure, parce que c'est vrai que comme ça se fait dans le... Enfin, on est ralenti, c'est pas très actif, on a tendance à plus se refroidir, ça c'est vrai. Mais pour moi, ça se pratique par toutes les saisons.
La forêt, ça peut faire peur. On peut entendre, comme dans les contes de fées, avec le méchant loup... Mais il faut faire abstraction de tout ça.
Ouais. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il y a tout ce côté-là. J'organise par exemple des sorties semi-nocturnes. Donc entre chien et loup, justement. Et je parle de justement les peurs, le grand méchant loup, la sorcière, l'ogre et tous les monstres qu'on peut y trouver. Alors je pense que c'est normal parce que justement c'est ancré en nous comme l'homme vient de la nature, on l'a aussi parce que ça nous permettait de survivre, hein, d'être en état d'alerte. Après, dans nos zones boisées du Pas-de-Calais à ce jour, il n'y a pas de risque de tomber normalement sur un animal sauvage, on va mettre au conditionnel. et après on peut se balader, enfin voilà. Partout. Moi, par exemple, j'adore me balader quand la nuit tombe. C'est très apaisant, c'est très ressourçant, c'est une ambiance vraiment différente. Ça fait travailler les sens également différemment, parce qu'on perd ses repères, hein, quand la vue, quand la luminosité diminue, la vue baisse, et donc on entend plus, et on peut entendre plus justement des petites branches qui craquent, parce qu'il y a un animal non identifié qui passe, et ça peut éventuellement nous mettre en alerte. Mais personnellement, je trouve ça assez sympa. Et les sorties semi-nocturnes, les personnes, souvent, quand elles viennent, c'est dans cette idée-là, de « mais j'ose pas me promener seule ou accompagnée quand la nuit tombe », et bien voilà, elles sont guidées, donc elles viennent.
Il y a une question de confiance, il y a un contrat de confiance entre vous et votre clientèle. On parle de clientèle, on est d'accord, on ne parle pas de patientèle.
Non, clientèle, tout à fait, ouais.
Donc, il y a un contrat de confiance qui est inscrit, parce que si vous êtes professionnel dans le domaine, donc les personnes sont tentées à, bien sûr, vous suivre et à vous accorder une confiance totale.
Oui, je pense, oui, oui.
Donc c'est rassurant.
Bah pour moi, oui. Vu qu'il y en a qui viennent et qui reviennent, donc c'est que ça doit fonctionner.
Donc ça, c'est important de se dire, bon, bah voilà, je vais me prendre 2 heures avec une professionnelle qui va me guider à travers la nature, à travers la forêt, que généralement, on va peut-être pas... Il y a des personnes qui ne s'aventurent pas comme ça, toutes seules. Vous connaissez bien le terrain, quoi.
Oui, alors moi, j'accompagne aussi les personnes dans les lieux que je connais uniquement et les lieux que j'apprécie. Donc on peut, alors là, peut-être faire le lien avec l'énergie ou pas. Je ne saurais pas dire pourquoi j'apprécie un lieu, comme voilà le lieu où je vous ai emmené là, c'est un lieu que j'apprécie. Je trouve qu'on y est bien. Il y a des endroits qui me plaisent moins. Je ne saurais pas forcément dire pourquoi, donc j'y vais pas. Après, oui, je vais que dans des endroits que je connais. Au niveau du calme, voilà, je passe, je repasse souvent. Pour voir, pour observer si c'est praticable aussi, parce que la végétation pousse, comme on a pu constater là. Et, mais oui, c'est que dans des endroits où je connais. Donc je pense que ça rassure aussi, parce que j'ai confiance en moi, voilà, mais j'ai confiance aussi dans l'endroit où je vais.
C'est très important de pour ma part, je pense que c'est très important de se laisser guider, accompagner, parce que comme ça, au moins, il y a la sécurité derrière. Ça, oui. c'est primordial.
Mais je pense qu'il y a ça, et puis aussi le fait de on n'a pas à penser, enfin, le côté sécurité. Et tout à l'heure, vous me posez la question, comment ça se fait? Pourquoi on pourrait moins se détendre tout seul? Parce qu'on peut peut-être réfléchir, il faudrait que je fasse ceci, que je pose un temps de respiration, que j'arrête de penser, ah oui, tiens, je vais toucher le sol, ou je vais faire ci ou ça. Et là, il n'y a pas à penser ça, parce que je suis là pour guider, en fait.
C'est se recentrer.
Oui, c'est ça, ouais.
Les usagers, comme les cyclistes, les chasseurs, les randonneurs, comment ça se passe? Est-ce qu'ils vous perturbent ou pas dans votre activité?
Alors, pour ce qui est de la chasse, j'évite les zones où il y a la chasse, hein, forcément, même si parfois on peut entendre au loin des coups de feu. C'est déjà arrivé. Donc je précise en temps de l'hiver aux personnes que on peut entendre des coups de feu. Parfois c'est vrai que ça peut résonner, mais c'est pas dans le bois. Voilà, pour rassurer, je choisis vraiment des zones où il n'y a pas de risque. Pour ce qui est des promeneurs, alors c'est un peu, enfin ça dépend en fait. Quand on est dans le sous-bois, on ne les aperçoit pas forcément. Après on les croise quand même sur les chemins et il y a déjà eu des rencontres, des échanges un peu rigolos parce que c'est un groupe de personnes qui marchent lentement. À distance, parce que l'idée, c'est pas d'être l'un derrière l'autre, sinon on a le sac à dos de l'autre ou le dos de l'autre, et on n'est pas en soi, on est en train de regarder l'autre pour pas lui rentrer dedans. Donc il y a la distance, il y a le calme, parce que c'est calme, il y a la lenteur, et la plupart du temps, quand même, ça attire le regard. Parfois, il y a des personnes qui posent des questions, c'est déjà arrivé lors d'une séance, des gens qui passent et qui nous voient, qui viennent poser une question. Donc je vais, alors parfois aux participants, parfois moi je vais prendre le relais pour que la personne reste dans sa petite bulle de bien-être. Et puis il y a parfois des petites anecdotes rigolotes. Une fois un monsieur, on marchait tout doucement en regardant le paysage, et qui m'a dit « mais vous avez vu un faisan, un chevreuil, enfin, pourquoi vous êtes tous comme ça ?» Je disais « non, on contemple juste », et lui regardait, mais je pense qu'il ne voyait pas, c'est un monsieur qui courait, qui s'est arrêté, donc il n'était pas non plus dans la dynamique de se poser et regarder, juste regarder en fait. Voilà.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville, j'ai grandi loin des futaies où mes frères des forêts ont fondé une famille. Comme un arbre dans la ville, entre béton et bitume, je me débats, mais mes branches volent bas. Si près des autos qui fument, entre béton et bitume, comme un arbre dans la ville. J'ai la fumée des usines pour prison et mes racines, on les recouvre de gris comme un arbre dans la ville. Comme un arbre dans la ville. J'ai des chansons sur mes feuilles qui s'envoleront sous l'œil de vos fenêtres serviles, comme un arbre dans la ville. Entre béton et bitume, on m'arrachera des rues pour bâtir où j'ai vécu. D'honneur posthume entre béton et bitume. Comme un arbre dans la ville. Ami fait après ma mort, barricade de mon corps et du feu de mes bras.
Dans Zen à l'antenne, c'était « Comme un arbre dans la ville » de Maxime Le Forestier. Nous sommes avec Cindy Pavy dans le bois de la citadelle d'Arras.
La respiration compte beaucoup aussi dans votre activité?
Ouais. Dès l'instant où on ralentit, on respire mieux. Il y a un temps de pause, donc au début, comme j'expliquais, avec un temps de respiration justement. Au niveau des autres, des bénéfices, le terme, je sais sur quoi rebondir, suspendu. Ce qui revient quasiment tout le temps dans l'échange, enfin, ce que j'appelle l'échange final, on termine autour d'une tisane et chacun revient sur la séance en général, et le terme hors du temps. Le terme suspendu ou hors du temps, moment hors du temps, revient tout le temps. C'est je ne vais pas dire obligatoire, mais voilà, c'est vraiment un terme qui...
C'est le ressenti de vos clients,
oui,
en fait.
Oui, c'est ça, oui. Vraiment l'impression de s'offrir un moment hors du temps, dans des lieux en plus que souvent ils connaissent, parce que je suis aux alentours d'Arras, donc les personnes qui viennent sont des personnes qui généralement se baladent déjà par elles-mêmes, donc elles connaissent les lieux, mais ce qui revient aussi souvent, c'est qu'elles pensent les connaître, on va dire. Parce que tout le monde connaît le chemin, l'intersection, après il y a ça, mais elles ne prennent pas forcément le temps de se poser.
Découvrir vraiment dans un autre univers, parce qu'on peut très bien marcher, en plus ça allie l'activité physique, ça c'est génial, parce qu'on disait tout à l'heure, comme ça, ça nous fait notre activité physique de la journée, qui est quand même sympa, et on découvre, quand on est dans le sous-bois, c'est un autre univers. Donc ça, c'est plutôt sympa que d'être dans les chemins goudronnés ou des chemins qui sont attribués aux piétons. Là, on est un peu hors zone.
Et souvent, quand on est dans ces chemins, alors soit on vient pour courir, par exemple, on parlait, faire du vélo, soit on se promène avec ses amis, avec son téléphone, avec ses pensées, avec son chien, ses enfants, sa famille, enfin, il y a plein de choses. Donc on n'est pas vraiment dans l'observation de ce qui se passe autour de soi. Et si on est en plus, on est dans l'idée, je vais sortir marcher, faire une activité physique, on va avoir tendance à marcher à un certain rythme et on ne va pas forcément voir ce qu'il y a autour.
L'introspection, ça peut faire peur? Et quand on est en groupe, est-ce que c'est plus simple?
Alors, c'est pas forcément simple, effectivement, en fonction des caractères des uns et des autres. Il y a des personnes qui viennent, qui ont plus de mal à lâcher prise, à se concentrer aussi sur... on parlait de contemplation. C'est pas forcément simple de s'arrêter, de regarder vraiment... il y a toujours un laps de temps en plus, les activités durent un certain temps parce qu'il faut justement un moment pour que le cerveau lâche prise. Donc il y a toujours un moment où le cerveau va batailler, où je m'ennuie, là j'en ai marre, j'ai fait le tour, j'ai plus rien à voir, voilà. Il faut passer ce cap-là.
Il y a une méthode pour ça?
La méthode, j'ai envie de dire, c'est le temps.
Vous avez, je ne sais pas, une façon de faire que vous pouvez transmettre. C'est vrai que c'est propre à chacun de lâcher prise. Mais comment on peut y parvenir en fait? Est-ce que vous pouvez, je sais pas, donner quelques petites instructions en disant, bah voilà, posez-vous, fermez les yeux, respirez. Comment ça se passe pour vous?
C'est en fait tout le contenu d'une séance, enfin le déroulé d'une séance est construit, en tout cas je pense, de façon à amener à se lâcher prise. Donc il y a le petit temps de présentation, le temps où on marche, on ralentit. Alors je ralentis le rythme tout doucement. Je ne commence pas à un rythme hyper lent parce que sinon ça peut perturber justement les personnes tout de suite. Et l'idée c'est vraiment d'être amené à lâcher prise vraiment par étapes. Donc le temps de marche en conscience permet cela. Après un temps de pause où on va déjà à l'écart dans le sous-bois de respiration, où on revient au corps. Et puis ensuite les activités sensorielles qui une par une permettent d'eux et les échanges également. Parce que les échanges sont... C'est vraiment variable en fonction des groupes, du nombre de participants et des envies des personnes. Mais chacun partage ce qu'il a envie de partager et la plupart du temps, ça fait toujours écho chez les autres. Que ce soit un sens ou une observation ou un ressenti, ça m'a fait penser à ceci ou cela. La plupart du temps, ça fait écho chez les uns et les autres. Donc, et ça aide aussi, je pense, les personnes à pouvoir lâcher prise. Ou se dire, l'activité, tout seul, je pourrais faire comme ça.
Une des qualités pour être sylvothérapeute, c'est être à l'écoute. Est-ce qu'il y en a d'autres de qualités?
C'est une excellente question. L'écoute, oui, forcément. Parce que quand les personnes, les participants sont en activité, moi je suis en veille, j'ai envie de dire. Il y a l'écoute lors des temps de partage, c'est très important. Après, je vais reprendre le terme veille, mais j'observe pour voir comment ça se passe, si c'est agréable pour tous. Parce que ça peut arriver aussi, hein, c'est déjà arrivé une fois, une personne, ce que j'ai proposé, voilà, c'était vraiment trop compliqué pour elle. Parce que ça lui avait réveillé des souvenirs en elle. Pendant que les autres faisaient, moi j'ai vu que c'était compliqué, je suis allée voir, on a discuté. Et ça a permis de laisser passer finalement cette petite difficulté.
Il y a un moment donné, il y a une prise de conscience de la part de certaines personnes en disant « mais je ne me pose pas assez ». Et à un moment donné, il va peut-être falloir que je m'occupe un petit peu plus de moi, arrêter d'être dans la course contre la montre. Est-ce que vous avez déjà eu ce retour-là?
Oui. Ça arrive souvent. Après, en pratique, j'ai envie de dire après, le lendemain, je ne sais pas si les personnes... En tout cas, quand des personnes reviennent en me disant « j'ai pas réussi à me prendre un temps, donc je reviens, je refais une séance, parce que c'est du temps pour moi. Certains m'envoient parfois des messages, donc parfois ils font des balades. Alors, souvent, c'est dans la semaine ou dans une ou deux semaines après qu'ils ont fait une balade et qu'ils l'ont faite différemment, en prenant le temps ou en se posant. Après, est-ce que ça dure sur du long terme? Je ne sais pas. Ce qui est certain, c'est que si on prend le temps, même si c'est une heure, imaginons, ou au moins une demi-heure, parce qu'il faut vraiment pouvoir lâcher, en 15 minutes, ça paraît un peu compliqué quand même. Toutes les semaines, ça paraît peu. J'ai envie de dire une demi-heure tous les jours, mais ça peut être beaucoup pour certains. Mais au moins une heure tous les week-ends, ça ressource plus, forcément, vu qu'on, comme dans toute pratique, hein. Plus on pratique et plus on va avoir les bénéfices et plus on va lâcher prise et plus on va savoir se poser tout de suite.
Votre conseil pour, parce qu'on parle de sylvothérapie, donc thérapie dedans, thérapie ça veut dire que vous n'avez pas de baguette magique, ça ne va pas se faire en une fois. Donc on va dire pour débuter sur le mois, vous préconisez combien de séances pour qu'après on puisse avoir un rythme un petit peu moins, la personne va commencer à bien prendre conscience qu'effectivement, le fait de faire cette thérapie avec vous, ça va permettre quand même d'aller un peu plus loin et d'être autonome, quoi, je veux dire.
Alors, j'ai envie de dire, j'ai pas vraiment de préconisation, parce que je pense qu'on peut venir une fois, comprendre le principe, parce que c'est vraiment très simple, déjà là, avec ce que j'ai expliqué, c'est vraiment très simple à comprendre, c'est très simple à reproduire. Après, ça dépend toujours du temps qu'on s'accorde, qu'on se donne pour y arriver, en fait. Quelqu'un qui va venir, on peut venir une ou deux séances, si on veut voir un peu de diversité au niveau des activités, par exemple, sensorielles, pour avoir un peu d'idées. Et puis après, pratiquer, se prendre une heure ou deux, peu importe le temps, et pratiquer par soi-même, en fait. Je pense que, là, comme dans beaucoup de diverses techniques, comme la méditation, Il y a une différence entre le faire une fois par mois et du coup c'est plus compliqué parce qu'on le bah, qu'est-ce que je vais faire, tiens il y avait ça, enfin se souvenir des choses et de pratiquer régulièrement où on va avoir l'habitude, ça va s'ancrer en nous. Je pense par exemple, je vois quand je me promène, j'ai l'impression que c'est même sûr que quand j'arrive dans des zones boisées, automatiquement, parfois je pars me promener en me disant bon cette fois je vais faire une balade mais en marche active, je vais faire tout le tour de la citadelle, je vais marcher vite, je rentre dans la partie boisée et pouf et, ah oui, le rythme ralentit,
complètement.
Tout s'arrête. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que je marche beaucoup, mais tu sors pendant des heures et des heures, mais en fait je peux sortir une journée, je suis à peine 10 km parce que je m'assois, je regarde, j'écoute. Voilà, c'est ça, oui. Et c'est très rare les fois où je pars. Enfin, voilà. Je sais que ça m'arrive en disant là j'y vais, voilà, je marche vite. Et en fait, non, ça ne fonctionne jamais. Dès que j'arrive dans les espaces boisés, j'entends les chants des autres. Je pense que mon esprit a le hop, réflexe, détente, on ralentit.
Il y a le bouton dans le cerveau qui se met automatiquement en mode je suis en connexion avec la nature.
Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des théières. Des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Je voudrais du Fred Astaire, revoir un latte cœur. Je voudrais toujours te plaire dans mon jardin d'hiver. Je veux déjeuner par terre comme au long des golfes clairs, embrasser les yeux ouverts dans mon jardin. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Les années passent, qu'il est loin l'âge tendre, nul ne peut nous entendre. Dans mon jardin d'hiver.
C'était Henri Salvador, Jardin d'hiver. Nous sommes au terme de notre émission avec Cindy Pavy, sylvothérapeute.
Votre outil principal en tant que sylvothérapeute, on a bien compris que c'est la nature. On parlait de méditation tout à l'heure. Est-ce que vous avez besoin d'outils ou d'instruments de musique ou d'outils autres que la nature pour travailler?
J'ai quelques petits outils, mais ce sont des petites choses simples pour mieux observer, mieux contempler, on va dire, la nature que j'utilise. Mais après, il n'y a pas besoin... Moi, c'est des petits plus, j'ai envie de dire. Mais il n'y a pas besoin forcément de ça.
Vous avez quoi dans vos poches?
J'ai mon marron sacré. J'appelle ça le marron sacré. J'ai déjà fait... Je fais parfois des séances individuelles aussi. Et je l'utilise lors des séances individuelles. Alors le marron, je ne sais pas pourquoi le marron, mais j'aime beaucoup les marrons, les pommes de pin. Le marron est plus facilement transportable qu'une pomme de pin, plus discret. Je l'utilise en anti-stress en fait, comme certains peuvent avoir des boules pour se déstresser qu'on va rouler dans la main. Alors j'en ai dans mes poches, j'en ai dans ma voiture, j'en ai dans mon sac aussi. Bon, pas tout le temps, là j'avoue que je l'avais pris pour moi me détendre. Et puis parfois, juste le tenir, ça permet de s'ancrer aussi. Oublier le stress, on peut avoir l'effet pour soit juste le tenir dans la main ou le masser, le rouler dans la paume des mains ou sur l'autre face des mains. Et ça permet de se centrer de par le toucher, en fait, poser son attention sur autre chose. Et alors, la petite chose que j'aime aussi, c'est à l'automne, quand on les ramasse, il y a la fraîcheur, il y a les odeurs, il y a d'autres sens à travailler.
Est-ce qu'on peut ramener quelque chose, une écorce, un petit bout de bois, une feuille pour prolonger la séance ?
Oui, c'est déjà arrivé, effectivement. Ouais. Il y a dans la partie contemplation, il y a parfois des personnes qui trouvent un petit... Moi, j'aime ce que j'appelle le petit trésor. Je leur demande de se balader. Alors, de se balader en mode flânerie, on marche vraiment un pas après l'autre. Et de partager après, si elles le souhaitent, un trésor, une observation qu'elles ont faite. Il y a des personnes qui reviennent avec ce trésor, parfois pour le montrer au groupe, et qui repartent avec. Et il y a quelque temps, il y avait des petits bourgeons qui étaient très 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 doux au toucher. Et bon, il y a des arbres qui ont été coupés à la citadelle, alors j'avais récupéré des branches qui étaient par terre. Et lors d'un atelier, j'avais pris ces petits bourgeons. Certaines personnes les ont rendus, d'autres les ont gardés, et l'invitation était de le toucher, les faire glisser sur sa main, les yeux fermés, sur le visage aussi, et certains les ont gardés parce que c'était très très doux. Alors, est-ce qu'ils les ont réutilisés? Je ne sais pas, j'espère.
Donc on a bien tous les sens qui sont mis en éveil. Là actuellement on entend les oiseaux. C'est vrai que si à un moment donné, en étant chez vous, vous pouvez très bien fermer les yeux et écouter ces oiseaux. Donc il y a un petit dialogue qui se fait, on a l'impression vraiment de... Oh ouais, c'est ça, c'est le mot, c'est être hors du temps et de focaliser sur autre chose que notre vie au quotidien à courir.
C'est exactement ça, et du coup j'ai envie d'utiliser le terme un peu plus large, je vais reprendre thérapie, mais ou soin par la nature. Ça peut se pratiquer partout, chez soi, dans son jardin, dans un parc en ville, entre midi et deux, si on a une pause et qu'on a la chance d'avoir un parc assez calme, en tout cas pour pouvoir entendre et puis observer. Moi, j'habite en appartement, j'ai un balcon. En face de chez moi, il y a des arbres, il y a un terrain privé avec des arbres, il y a plein d'oiseaux qui chantent, il y a des écureuils. Parfois, juste j'observe ce qui se passe dans ces arbres. Et en fait, il y a plein, quand on prend le temps de voir, il se passe plein de choses, en fait. Il y a du vivant partout.
C'est un spectacle extraordinaire de voir la nature s'éveiller. J'en ai parlé lors de ma deuxième interview. On a là vraiment cette chance-là d'avoir une région où on a cette chance-là de pouvoir sortir même sans faire beaucoup de kilomètres et d'être baigné dans cette nature et de pouvoir se ressourcer. C'est vraiment le mot, c'est se ressourcer.
C'est tout à fait ça.
Cindy, moi je voulais savoir un petit peu le côté pratique. Combien coûtent vos séances ?
Alors un atelier pour adultes en groupe dure 2 heures et coûte 20 euros.
Donc, c'est très abordable et je pense que tout à chacun, la personne qui veut être guidée, être accompagnée, moi je trouve que c'est plus que raisonnable et n'hésitez pas à être accompagné par Cindy. Hein. Des petits conseils pour la route, des petites choses que vous voulez nous dire? Est-ce que vous avez une page Facebook où on pouvait retrouver ces éléments?
Oui. Alors j'ai une page Facebook qui est Cindy Nature et Mieux-être, accompagnement retour à soi. Sinon c'est peut-être plus simple, mon site web c'est cindypavy.fr. Et il y a toutes les infos dessus, il y a les sorties donc en groupe pour adultes, pour les enfants, et d'autres activités. Je propose aussi la méditation, voire des ateliers groupés avec d'autres partenaires, des cercles de parole, il y a tout dessus.
Est-ce qu'en entreprise, ça peut se faire, vous proposez des ateliers ?
Alors, j'ai commencé. Pour l'instant, je fais essentiellement les particuliers. J'ai fait quelques structures sociales. Mon projet pour continuer à me développer, développer mon activité, c'est d'aller démarcher ailleurs et de proposer la sylvothérapie et aussi la méditation. dans plein de structures, les entreprises également, parce que je pense que ça peut se pratiquer partout.
Je pense que ça serait vraiment intéressant de le proposer pour la qualité de vie au travail. S'il y a des chefs d'entreprise qui nous écoutent, ça peut être quelque chose à offrir aussi à ses employés. On sait très bien que pour la qualité de vie au travail, qui est essentielle, hein, je le rappelle, ça évite les arrêts de travail, les burn-out, dépression, etc. N'hésitez pas à contacter Cindy. Bah écoutez Cindy, merci beaucoup pour cette jolie balade. On a beaucoup de chance, on a le soleil qui vient nous caresser un peu la peau là. Un petit peu de chaleur nous fait le plus grand bien. Et puis on se retrouve très bientôt. Bonne journée à vous.
Merci beaucoup et puis à bientôt avec plaisir.
Bonne journée. Merci, au revoir.
Au revoir.
Quant à moi, je vous dis au revoir. Prenez bien soin de vous. Et à très bientôt pour le prochain magazine Zen à l'antenne.